Bonjour et bienvenue sur Sauvage, le podcast bien-être qui parle naturopathie, yoga, méditation et qui aujourd'hui va aussi parler de chemin de vie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui sont allés faire un tour sur mon site internet récemment, c'est pas vraiment une surprise ce thème. Pour les autres, je m'explique. Il y a quelques jours, j'ai dévoilé la nouvelle version de mon site internet, que vous pouvez d'ailleurs aller visiter à paulinemessel.com, voilà la petite pub. Et avec ce nouveau design est arrivée une nouvelle offre, ou plutôt, je devrais dire, un remaniement des offres que j'avais déjà en ligne et l'ajout d'outils auxquels je me suis formée ces derniers mois. Depuis l'été dernier, je me suis penchée sur la question du coaching de vie et plus précisément du coaching lié au but de vie. Mes buts de vie, on est d'accord, c'est pas très joli, alors je préfère parler de chemin de vie. Je sais que c'est une terminologie qu'on utilise en numérologie, mais j'ai toujours pensé avec ce mot « chemin ». Et je ne me vois pas m'en détacher maintenant. Avec le mot chemin, il y a aussi l'idée de progression, de cheminement évidemment, d'un paysage qui change aussi. De choses qui ne restent pas toujours les mêmes. Alors qu'avec l'idée de but de vie, il y a selon moi le risque de rester enfermé dans une vision des choses qui serait un peu toujours la même. Un objectif, c'est aussi fait pour évoluer, pour changer, pour se transformer en même temps que nous nous transformons nous-mêmes. Alors pour résumer, le chemin de vie, c'est ce chemin sur lequel nous marchons durant toute notre existence. Il arrive qu'on s'en éloigne, qu'on prenne des virages, des sentiers détournés. J'imagine que certains arrivent à s'égarer complètement parfois, mais je suis aussi optimiste et j'ai envie de penser que d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par retrouver notre chemin. À cette idée de chemin, j'aimerais également ajouter le concept de la mission de vie. Ça rejoint peut-être un peu le principe du but de vie, mais c'est un aspect de toute cette réflexion auquel parfois je pense un peu moins. La mission de vie, c'est ce qui nous permet de revenir toujours sur notre chemin de vie. On pourrait aussi appeler ça sens de la vie ou objectif de vie, ce que nous voulons faire, développer, achever dans notre existence. Peut-être que comme moi, vous n'avez pas d'idée précise de ce qu'est votre mission de vie. Après tout, nous ne sommes pas tous des entreprises ou des marques avec des slogans bien définis que l'on pourrait placarder partout. Ce serait plus simple, bien sûr, mais aussi terriblement ennuyeux. Alors peut-être que vous n'avez pas particulièrement envie de sauver le monde ou de devenir le prochain Stephen Hawking ou le prochain Bill Gates. Personnellement, je n'ai jamais eu dans l'idée que je voulais aider les gens ou les sauver ou quoi que ce soit de ce genre. Mais j'ai toujours eu cette impression d'être là pour quelque chose. Et c'est le fait de ne pas connaître ce quelque chose, de ne pas arriver à le visualiser clairement, qui m'a peut-être fait explorer d'autres voies professionnelles, notamment quand j'étais plus jeune. Je crois que, même si vous ne pouvez pas mettre un mot précis sur votre mission de vie, l'important est de rester fidèle à vos valeurs. Par exemple, je sais que je veux avoir un impact positif, ne serait-ce que sur une seule personne. Je sais aussi que je ne veux pas participer à la marche du monde comme elle nous est proposée actuellement. Évidemment, pour ce point-là, c'est difficile à éviter complètement. Mais je fais de mon mieux pour sortir des cases qu'on me propose à chaque fois. Je sais que j'accorde de plus en plus d'importance à la nature et que je suis de plus en plus énervée de ce qu'il se passe au niveau écologique. Je sais que je veux rester authentique à ce que je suis parce que pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas assez. Pas assez bien, pas assez cultivée, pas assez intelligente, mince, jolie, pas assez de diplôme, pas assez d'argent. Et que j'ai décidé de m'en foutre du mieux que je peux. J'ai décidé d'accepter mes ambitions personnelles et professionnelles qui sont étroitement liées et d'accepter de me fier à mon intuition. Et toutes ces petites choses auxquelles je pourrais en rajouter encore bien d'autres, toutes ces petites choses m'ont permis de définir mes priorités mais surtout mes valeurs. Ce que je voulais préserver, ce dont je n'avais pas besoin, les qualités que je voulais développer et ce que je voulais véhiculer avec mon travail. Et en soi, je crois que c'est déjà pas mal comme mission de vie. Même si vous n'avez pas pour but de devenir Superman ou le prochain Einstein, si vous gardez à l'esprit quelles sont vos valeurs et vos priorités, tout en restant bien sûr flexible et ouvert à ce que peut vous balancer l'univers, vous êtes déjà bien parti. Le chemin de vie, c'est la route qu'on suit tout au long de notre vie. La mission de vie, c'est ce qui nous permet de rester sur ce chemin ou de le retrouver. Revenons un peu au début. Je vous expliquais que j'avais refait mon site internet et que j'y proposais de nouvelles offres. En fait, cette offre se manifeste principalement par des accompagnements holistiques et du coaching. Je ne suis pas encore vraiment amie avec ce mot parce que je trouve qu'il a une connotation qui ne convient pas tout à fait à mon travail, mais à défaut de trouver mieux, pour le moment, je la garde. Je suis toujours naturopathe, je suis toujours professeur de yoga, mais j'utilise les outils que j'ai découverts avec ma première certification de coaching pour créer quelque chose de plus complet. Des accompagnements personnalisés, dédiés à ceux qui ont envie de travailler avec moi, bien sûr, mais plus particulièrement à ceux qui recherchent leur chemin de vie et qui ont besoin de plus de sens. Ceux qui sont en train de traverser de grands changements dans leur vie, qui sont en train de vivre une reconversion, un burn-out ou qui en sortent. Ceux qui sont également très anxieux ou angoissés, qui ont envie de comprendre quel est le message derrière ces émotions. Évidemment, il ne s'agit pas d'une thérapie ou de psychologie. Ce genre d'accompagnement se concentre plus sur le passé, tandis que ces accompagnements et le coaching se concentrent sur le présent ou le futur, et surtout, je ne prétends en aucun cas être psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste. J'utilise toutefois tous mes outils pour essayer de vous aider à avancer et pour développer des techniques plus précises et efficaces au fur et à mesure de mes découvertes et de vos retours. Bon, ça, c'était le petit moment promotion du podcast. Maintenant qu'on a fait le tour de ce que je vous proposais, de ce qui était un chemin de vie, je crois qu'il serait temps de parler en détail du pourquoi, du comment de cette idée d'accompagnement. Et pour parler de ça, il faut parler de ma reconversion et de tout ce qui l'entourait. Je l'ai déjà évoqué, j'en ai parlé ici et là, en live ou sur Instagram, mais je voudrais coucher tout ça une dernière fois, sur le papier, plus ou moins, à l'oral, et en parler avec vous. Vous le savez peut-être déjà, mais j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai d'abord commencé à travailler dans le management culturel après une première année de prépa littéraire qui n'a pas été concluante. Festivals, expositions, la mise en place, la logistique, les visites, parfois les partenariats, tout ça c'était mon domaine. Mais après une expérience intense dans une structure culturelle et plusieurs mois de recherche d'emploi et d'entretien, je me suis rendu compte que ça ne me passionnait pas vraiment. Ou plus vraiment, je ne sais pas, car souvent je me demande si ça m'intéressait parce que j'étais bonne à mon travail ou parce que j'avais un vrai goût pour la chose. J'ai ensuite travaillé un peu en rédaction freelance, plus pour faire de l'argent qu'autre chose, puis j'ai passé les concours de l'enseignement en candidat libre pour devenir professeur de français et littérature en collège et lycée. Donc préparation et passage du CAPES, un stress horrible, des larmes et un concours obtenu. La première année, juste après l'obtention du concours, on retourne encore une fois à l'école, à ce qui était alors l'ESP. En fait, j'ai perdu le fil et je ne sais même plus si les ESP sont encore des ESP. Encore une année intense, mais chouette malgré le stress, des migraines démentes à répétition, parfois je ne savais même plus ce que je disais, des larmes, encore pas mal d'alcool parce qu'un jeune prof, ça boit quand même. Deuxième année d'enseignement, me voilà catapultée en Seine-et-Marne, à Provins exactement, et malgré de chouettes rencontres, je ne termine pas l'année. Au mois de mai, une semaine après mon anniversaire, je rentre chez mes parents. À tout juste 27 ans, mon médecin de famille me dit que ça ressemble vraiment à un burn-out. Et d'une certaine manière, elle avait raison. Juste avant cet épisode de crise d'angoisse à répétition, j'ai voulu reprendre tous mes cours parce que je n'en étais pas satisfaite. Je venais de terminer un manuscrit pour un concours d'écriture en étant vraiment très très short sur la deadline et j'avais un énorme tas de copies qui ne semblaient jamais désépaissir. Mais ça allait aussi plus loin que ça. Je n'avais pas envie d'aller travailler depuis un moment déjà et quand j'étais rentrée chez moi pour les vacances de Noël, dans le sud, j'avais franchement envisagé de ne pas retourner en Seine-et-Marne. Et puis ça faisait plusieurs années que je me lançais sur des voies professionnelles et que j'en revenais déçue ou vraiment pas prête à faire les concessions que l'on me demandait pour un poste ou un secteur en particulier. Par exemple, vivre à Paris, avec 5 colocataires, sans salon, un salaire qui n'était pas vraiment intéressant et des horaires de folie. Il n'y avait pas de passion, pas réelle ou profonde du moins, dans mes différentes tentatives. J'aimais enseigner dans le sens où j'aimais le contact avec les gamins, surtout les lycéens ou les dernières classes de collège. Mais je me rends compte que ce n'était pas tant enseigner qui me plaisait que partager avec eux des livres que j'aimais, leur faire faire des écritures d'invention, des pièces de théâtre, découvrir des livres avec eux et échanger autour de sujets qui me passionnaient. Ce n'est pas une vocation dans l'enseignement, ou plutôt ça ne fait pas une carrière si on n'a pas vocation à enseigner vraiment dans le cadre scolaire. En fait, c'était presque plus une crise existentielle qu'un simple burn-out tout ça, parce que j'ai été obligée de remettre en question tous les choix que j'avais faits jusque-là, notamment sur le plan scolaire et professionnel. Il fallait que je me demande si ces choix je les avais faits pour moi ou si je les avais faits pour faire plaisir, pour répondre à la pression sociale, pour essayer de prouver quelque chose, que j'étais assez créative et assez intelligente pour faire tout ça. Évidemment que je l'étais, sinon je ne l'aurais pas réussi à le faire, mais ça j'en ai pris conscience vraiment beaucoup plus tard. J'avais passé des années dans un univers très intellectuel en pensant que c'était ce qui me convenait. vivent le complexe de la gamine qui a sauté une classe et qui veut toujours être première de la classe. Et j'ai eu besoin de revoir mes priorités. De faire quelque chose de plus manuel, bien que créatif, de me tourner vers quelque chose de plus utile aussi, pratiquement et concrètement parlant. Et j'avais besoin, enfin, de me tourner vers quelque chose de plus naturel. C'est un raccourci de dire ça comme ça, évidemment. Je vous épargne les mois d'anxiété à la suite de ce gros séisme, les rééquilibrages, les doutes, les moments où je saturais toute seule devant mon ordinateur pendant ma formation. Tout ne s'est pas remis en place, même quand j'ai commencé ma formation en naturopathie, mais petit à petit, les choses se sont arrangées. Je me suis vraiment sentie plus apaisée après ma formation de yoga, parce qu'on avait exploré beaucoup de territoires intérieurs un peu sombres, un peu cachés, parce que j'avais mis mon corps à l'essai et parce que ça m'avait sorti de façon assez radicale de ma zone de confort. Voyager toute seule au Canada, dans une communauté autonome où on parle anglais et où on ne connaît personne, c'est un peu anxiogène au début et puis ça passe vite. Quand je me suis lancée dans la naturopathie et le yoga, j'avais dans l'idée de lancer des retraites et d'aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes. Parce que c'est ce que j'avais traversé et que ça me paraissait important de le faire. J'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui, on court après un tas de choses, on passe beaucoup de temps au travail et on ne prend pas vraiment le temps de se découvrir vraiment. De s'écouter, d'écouter son intuition, ses émotions. On se divertit beaucoup, on répond à beaucoup de pressions différentes, on se crée des besoins et des envies, mais on revient rarement réellement à soi. Et j'en suis coupable, moi aussi, si on peut dire ça comme ça, de faire ça. Moi aussi, je travaille beaucoup à ma manière et parfois je ne m'écoute pas assez, je sature et je recommence après avoir tout envoyé bouler. Et c'est parce qu'il fallait travailler, gagner de l'argent et se lancer que j'ai mis un peu de côté cette idée qu'elle m'a échappé. Un mois et demi après avoir lancé mon entreprise, j'ai commencé à donner des cours réguliers dans une structure. Souvent, c'était deux fois par jour. Et puis des ateliers, et puis on me demandait des consultations. Et au final, je courais et j'ai laissé en plan tout ce que je voulais développer pour moi, selon ma propre vision des choses. Je vous assure, ça n'a pas duré longtemps parce que ça ne me correspondait pas. En février, je me suis retrouvée à nouveau à repartir de zéro et j'ai eu la possibilité de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour faire un saut en Écosse, pour changer d'air. Et puis la pandémie a vraiment éclaté à l'international et le confinement a débuté presque dès mon retour. Forcément, avec autant de temps devant moi, j'étais obligée de réfléchir à ce que je voulais faire, aux modalités de travail que je voulais développer et surtout à mes offres et ma vision des choses. Est-ce qu'être naturopathe et professeur de yoga comme deux entités séparées, deux étiquettes séparées, me convenait vraiment? Est-ce que j'étais obligée d'attendre de mettre sur pied des retraites pour tout mettre en commun? Le déclencheur, je crois, a été la lecture de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Jusque-là, je me sentais pas prête pour le lire et j'avais repoussé le moment de le commencer jusqu'à le voir là sur mon étagère un soir de confinement. Je l'ai lu en 3 ou 4 jours et j'ai été frappée par la notion de légende personnelle qu'il développe dans le livre. Ça a été comme une révélation, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt comme une divulgation, parce que rien n'apparaît vraiment comme ça nulle part. J'ai refermé le livre et dès le lendemain, j'ai commencé à travailler sur la question des chemins de vie et à réfléchir à la façon la plus adaptée de l'inclure dans mon travail. Comme quoi, le pouvoir des livres. Pour cet épisode, j'avais envie de vous raconter comment j'en étais arrivée là où j'en suis aujourd'hui, mais de façon peut-être un peu plus personnelle qu'une évocation par-ci par-là. Ça fait de longues minutes à parler de moi, mais je crois que c'est en vous parlant de mon propre chemin et en utilisant ma propre expérience que je peux mettre en perspective mon travail au mieux. Évidemment, je n'entre pas dans tous les détails, mais les anxieux et les gens qui ont traversé un burn-out les connaissent déjà. Ça, c'est peut-être le contenu d'un autre podcast. Et puis avec le confinement, certains d'entre vous se sont peut-être mis à réfléchir sur leur quotidien, sur leur vie professionnelle, sur leurs envies, leurs passions, sur la satisfaction que leur apporte, ou non, leur vie en général. Avec tout ce temps libre, on a enfin eu le temps de se tourner vers l'intérieur, vers nous-mêmes, et de nous demander ce qu'on voulait vraiment. À travers mon travail et mes accompagnements, je crois que j'essaie de créer quelque chose dont j'aurais eu moi-même besoin il y a 2 ou 3 ans. Quelque chose qui aurait pu m'accompagner dans cette période compliquée, ou même avant, et qui aurait pu être autre chose qu'une psychothérapie. quelque chose qui me permette de me sentir moins seule par moments, qui puisse me rassurer peut-être et m'aider à avancer. Entre parenthèses, je ne regrette pas d'avoir fait tout ça sans accompagnement professionnel ou sans coaching du moins, car ça me permet aujourd'hui de proposer ma propre approche. C'est Anthony Robbins dans son documentaire « Je ne suis pas votre gourou » qui dit, et je paraphrase, qu'on peut accompagner les gens sur un chemin parce qu'on l'a traversé nous-mêmes et généralement en souffrant. En tout cas, j'espère que ce podcast aura pu vous éclairer sur ma perception des chemins de vie, sur mes nouveaux accompagnements holistiques et que ça vous aura peut-être donné à réfléchir. On abordera à nouveau le sujet dans Sauvage, mais plus sous l'angle de mon expérience. Ça, c'est fait. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon approche holistique ou découvrir ce que je partage, vous pouvez me trouver sur Instagram, @pauline_msl, ou directement sur mon site internet, paulinemessel.com. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine fois.